France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du comte de Saint-Germain, mythomane et amant de Dalida, deux puissants ingrédients pour la chronique mondaine. Au mois de janvier 72, le grand public découvre à la télé le visage d'un étrange individu. Cet homme d'une trentaine d'années affirme être la réincarnation du comte de Saint-Germain, un aventurier alchimiste du XVIIIe siècle. Afin de prouver ses dires, il réalise en direct une expérience de transmutation. Comprenez la transformation chimique d'un morceau de métal en or. Parce que les alchimistes, dit-on, transformaient le plomb en or. Et ça marche. Témoins de la scène, les journalistes de l'ERTF n'en croient pas leurs yeux. Et chez eux, les téléspectateurs sont médusés. Antiquaire, professeur, savant, Saint-Germain affirme avoir traversé des siècles et être vieux de plus de 17 000 ans. Il dit avoir fréquenté Louis XV, dont il aurait partagé les faveurs de ses nombreuses maîtresses et notamment de Madame de Pompadour. Il explique aussi avoir rencontré Voltaire et vécu au siècle des Lumières. Jusque-là, nous sommes dans le grand n'importe quoi. Sauf pour au moins une personne, Dalida. Mais oui, entre Saint-Germain et Dalida, l'alchimie opère. La romance commence sur les plateaux télé et en chanson, mais les turbulences arrivent. À cela s'ajoutent les frasques du comte qui manquent d'abattre un innocent à coup de carabine. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Riwa, professeure agrégée, autrice d'une biographie de Dalida, un ouvrage coécrit avec Orlando, le frère de la chanteuse, livre intitulé « Dalida, mon frère, tu écriras mes mémoires », réédité aux éditions Plomb en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Par rapport à vous, je suis immortel. Mais de fait, je ne le suis pas. Je suis mortel, j'ai un temps donné qui est très grand, qui correspond à certainement plusieurs milliers d'années, mais qui est un temps imparti quand même à chacun d'entre nous. Je suis né un jour, oui, il y a 17 000 ans.
Janvier 1972, Paris. Le témoignage que vous venez d'entendre fait penser à une réplique de film. Et pourtant ici, rien n'est fictif. Il s'agit d'un extrait de reportage diffusé à la télé. La scène se déroule à la table d'une auberge du quartier des Halles. Assis à l'écart, un groupe de 5 personnes déjeune et discute, éclairé par la lumière jaunâtre des bougies. Le tout sous le regard d'une caméra. Autour de la table, on trouve une figure bien connue du journal télé, le journaliste Alain Fenbach. D'ordinaire occupé à interviewer les responsables politiques, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser ce repas. Micro et caméra allumés, Fenbach donne la parole aux uns et pose des questions aux autres. Le journaliste s'adresse en particulier à un homme assis à sa droite, là, au centre de l'image. Cet individu a fait parler de lui récemment dans la presse, affirmant avoir vécu plus de 17 000 ans et être dans l'impossibilité de mourir. Beau, fringant et apparemment bien dérangé du cerveau, ce jeune homme aux yeux noirs charbon affirme qu'il est la réincarnation d'un aventurier alchimiste du XVIIIe siècle, le comte de Saint-Germain.
Pour les gens qui sont initiés à cet ordre d'idées, et je dis idées à bon escient, qui ont lu certains ouvrages qui ont été faits sur moi, je suis un alchimiste et le dernier des Templiers. Je bénéficie d'un produit qui est issu d'une technique et d'une science qui me permet de traverser le temps et qui me permet également de me présenter aujourd'hui, au même titre qu'il y a 400 ou 500 années, sous le nom du comte de Saint-Germain.
Durant toute la durée du reportage, deux personnes sont assises de dos. Impossible de distinguer leur visage. On ne sait rien non plus de leur identité. Pour seul élément d'introduction, le journaliste Alain Fenbach affirme qu'il s'agit là de deux hommes, deux personnalités, l'une du monde du spectacle, l'autre de l'industrie, qui souhaitent rester anonymes. Point commun entre ces deux personnages, tous deux ont vécu un événement surnaturel en compagnie ou à cause de Saint-Germain. Premier à prendre la parole, un homme d'une quarantaine d'années qui explique d'un ton calme que lors d'une marche en lisière de forêt, près de Chartres, Saint-Germain lui a fait la démonstration de ses pouvoirs de télékinésie, autrement dit. en fixant un groupe d'arbres du regard. Saint-Germain a réussi à les faire s'arracher de terre et à les faire ensuite planer à quelques mètres au-dessus du sol, avant de les laisser retomber comme de vulgaires branches mortes. En termes de miracle, Jésus peut aller se rhabiller. Puis, continue l'homme, le comte l'a emmené dans un tunnel secret pour accéder à la porte du temps. Et là, il affirme avoir vu sa vie défiler devant lui avant de voir son futur. Assis en face, le comte écoute le récit tout en fumant un cigare. Son visage ne laisse apparaître aucune réaction, aucune émotion, non. Tout juste semble-t-il satisfait, lorsque Alain Fenbach se tourne vers lui pour lui demander des précisions sur ce qui s'est passé ce jour-là en bordure de forêt à Chartres. À ce premier témoignage, digne de l'hôpital psychiatrique, s'ajoute un second récit. Quelques instants plus tard, en effet, Fenbach interroge l'autre témoin assis autour de la table.
Après nous, un homme qui a eu un très grave accident, je sais, moi, qui vous êtes une ancienne vedette du monde du spectacle, une ancienne vedette connue, vous avez quitté le spectacle, vous avez maintenant une situation dans l'industrie importante, c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas montrer votre visage. Dans quelles circonstances vous avez rencontré le comte de Saint-Germain et comment vous êtes-il guéri ?
Eh bien c'est très simple, et j'ai eu l'opportunité de faire sa connaissance. Et j'ai eu donc l'accident dont vous avez parlé tout à l'heure, grâce auquel j'ai perdu un œil, et j'étais donc borgne. Un jour nous en avons parlé, et il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est deux fois rien, un jour tout s'arrangera. Saint-Germain m'a fait prendre certains produits, que le lendemain, je voyais normalement avec mes deux yeux. Alors que j'étais parfaitement borgne, et tous les plus grands professeurs de Paris ou d'Europe pourront vous confirmer, preuve à l'appui, que j'étais borgne. Et mon œil était mort.
D'un côté immortel, télépathe, voyant, guérisseur, de l'autre philosophe, antiquaire, savant et amateur de bon vin, la liste des talents et des activités du comte de Saint-Germain donne le tournis. Et ce n'est pas fini. L'individu prétend posséder un pouvoir encore plus surprenant, le don d'alchimie. Il ne manquait plus que ça. Comprenez, il serait capable, à la manière du célèbre Nicolas Flamel, de transformer n'importe quel métal en or. C'est précisément cette révélation qui a excité la curiosité du journaliste Alain Fenbach et qui lui a donné envie d'interviewer le comte. Une fois le déjeuner terminé, Saint-Germain invite Fenbach et l'équipe de l'ORTF à filmer l'intégralité d'une expérience de transmutation. Autrement dit, la transformation chimique d'une substance en une autre. Ici, dans le cas présent, ce sera du plomb en or, en bon alchimiste qu'il est, c'est la base. L'expérience a lieu dans une petite pièce qui semble être un bureau. Afin d'éviter tout trucage, l'équipe de l'ORTF a elle-même apporté le gaz, les pinces et un morceau de fil de plomb, tel qu'on pourrait les acheter dans le commerce. Saint-Germain, lui, apporte juste une capsule contenant une mystérieuse substance, ainsi qu'un petit creuset. L'objet est examiné par Fenbach et par la caméra. Une fois les vérifications effectuées, l'expérience commence. Saint-Germain s'intronise alors professeur de chimie et Fenbach, en mode journaliste embarqué, devient son disciple touche-à-tout.
Voulez-vous prendre le morceau de plomb et le tremper, en tremper l'extrémité dans la poudre ? C'est tout. Merci.
Il y en a très peu.
Il y en a beaucoup trop encore. Maintenant, mettez-le dans le creuset. Refermez le creuset. Allumez. Non, baissez la main, vous savez. Poser le creuset en équilibre sur les quatre branches. Alors, c'est une expérience qui peut être très dangereuse, qui a été dangereuse. Voulez-vous baisser la flamme ?
Vous êtes là totalement maître de l'expérience ?
Complètement.
Aucun danger ?
Aucun danger.
À aucun moment de l'opération, Saint-Germain ne touche ni ne s'approche du creuset. Non. Le seul qui manipule l'objet dans lequel on a mis le morceau de fil de plomb et la dite substance, c'est Fenbach. Après plusieurs minutes, au-dessus de la flamme du réchaud, le comte ordonne de déplacer le creuset hors du feu et de le mettre dans une casserole remplie d'eau froide. Bien, Fenbach s'exécute. Une fois le creuset revenu à une température normale, le journaliste ouvre l'opercule et découvre, à sa grande surprise, à l'intérieur, un petit morceau de métal jaune et brillant. Afin de vérifier qu'il ne s'agit pas là d'une supercherie ou d'une réaction due à la chaleur, Fenbach envoie le bout de métal à un laboratoire spécialisé. Quelques jours plus tard, le résultat tombe. l'analyse des experts est formelle, c'est bien de l'or. Bigot. Seulement voilà, en matière de chimie et de physique, les scientifiques le savent, il est très rare qu'une expérience réalisée hors laboratoire agrémenté, sans suivi d'un protocole strict et surtout sans l'utilisation d'un matériel calibré, comme ce fut le cas ici, il est rare qu'on obtienne un résultat aussi rapide et aussi probant, pour ne pas dire stupéfiant. Bref, il y a un loup. Et pourtant, un chimiste affirme avoir lui-même réussi cette prouesse par le passé, mais il réfute catégoriquement les allégations de Saint-Germain sur un don quelconque, un truc de mage.
Monsieur, peut-on tout simplement transmuter du plomb en or en se contentant de mettre dans un creuset un morceau de plomb et en le faisant chauffer ?
Non, c'est une grande rigolade. C'est une grande rigolade. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les transmutations.
Donc vous dites non à tous les alchimistes, même les grands alchimistes comme Flamel, qui au Moyen-Âge prouvait, démontrait qu'il faisait de l'or par la pierre philosophale.
Mais ça fait partie de ces secrets mystérieux, vous savez, qui correspondent à une autre rigolade, au fond, quand on les regarde scientifiquement.
Après la diffusion des reportages de l'ERTF, le comte de Saint-Germain reçoit plusieurs dizaines de demandes d'interviews, et même en provenance d'une prestigieuse revue scientifique américaine. De leur côté, les badauds se pressent devant la soi-disant petite boutique d'antiquité du comte, dans le quartier du Marais, à Paris. Sur place, malgré l'attente, c'est la déception. Aucune trace de Saint-Germain. Derrière la porte vitrée, un jeune homme qui affirme être juste un assistant explique qu'il a rencontré le comte il y a presque 30 ans et que celui-ci n'a jamais changé d'aspect physique. Ah oui, parce que, rappelons-le, ce monsieur ne vieillit pas. Ça, c'est bon pour le commun des mortels. Un témoignage de plus auquel certains veulent croire quand d'autres sont beaucoup plus sceptiques. D'ailleurs, si on gratte un peu, on découvre que le comte, appelons-le encore comme ça, dispose en effet d'une carte d'identité et même d'un casier judiciaire. Au registre de l'état civil, Saint-Germain s'appelle en réalité Richard Chanfray. Il est né à Lyon le 4 avril 1940. C'est un sans grade, un déclassé, sa vie jusque-là n'a rien de magique. Enfant d'Adas, Chanfray est davantage connu par la police pour ses nombreux petits larcins et escroqueries que par ses qualités d'antiquaire et d'immortel. Certains producteurs de télé et directeurs de casting auront reconnu sa voix et son visage dans le reportage de l'ORTF. Et pour cause. Voilà des années qu'à de multiples reprises, Chanfray, qui utilise Saint-Germain comme nom de scène, a tenté de se faire connaître comme acteur, chanteur et même comme artiste-sculpteur. Mais à chaque fois, l'expérience a tourné court, faute de succès. Alors, Richard Chanfray a-t-il usurpé l'identité de Saint-Germain ou bien a-t-il tout inventé ? Comme l'explique le célèbre historien-conteur Alain Decaux, il existe dans les livres d'histoire plusieurs éléments qui accréditent l'existence d'un véritable comte de Saint-Germain à travers les siècles.
Il est arrivé à Paris en février 1758. Nous savons d'une manière certaine qu'il meurt en Allemagne 24 février 1784. L'acte de décès est formel et plusieurs témoignages le sont également. Or, un an après, nous avons dans les mémoires de la comtesse d'Adhémar le témoignage qui veut qu'il ait été signalé au congrès maçonnique de Paris. Alors, il y a en effet quelques autres témoignages. En 1835, un certain Oettinger, un Allemand qui prétend qu'il a vu Saint-Germain à Paris. Nous avons ensuite une dame qu'il a vue en 1934. Et enfin, en 1945, un journal a publié une information suivant laquelle le comte de Saint-Germain était arrivé dans le Midi. Et j'ai reproduit moi-même dans un autre journal cette information sous toute réserve. Or, j'ai eu la surprise de recevoir une lettre d'une dame du Midi me disant « Monsieur, j'ai lu votre article, mais le comte de Saint-Germain, c'est mon mari. »
Les informations au sujet de ce comte germanoprata sont multiples autant qu'elles se contredisent, ce qui alimente la confusion, bien sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il était un artiste, un aventurier, un voyageur, et qu'il aurait réussi à approcher la cour du roi de France, Louis XV, en prétendant détenir les secrets d'un élixir de longue vie et le talent d'alchimie. Tiens donc. En tout cas, le comte de Saint-Germain fait la une pendant quelques semaines, avant de retourner dans l'oubli. « Mais dans les mois qui suivent, dans les dîners mondains du tout Paris, on s'arrache la présence du comte. Car son histoire loufoque est distrayante, son discours ésotérique intrigue, et ses prétendus pouvoirs surnaturels font beaucoup sourire. C'est le dîner de cons à distance. Neuf mois après la diffusion du reportage de l'ERTF sur Saint-Germain à l'automne 72, par un après-midi pluvieux d'octobre, la chanteuse Dalida se rend en voiture à l'enregistrement de l'émission Cadet Rouzel à la maison de la radio, ici. Assis à côté d'elle, à l'arrière du véhicule, il y a son frère, compagnon de toujours, confident, agent, premier soutien, Rolando. Voilà des années que cet homme sincère, et avec d'autres, aide la chanteuse à sortir de la dépression. Car derrière le strass et les paillettes des plateaux télé, derrière le succès de ses chansons dans les bacs, et enfin, derrière les sourires en une des magazines, Dalida va mal, très mal. Et il y a de quoi. La chanteuse a vécu le suicide de deux des hommes qui partageaient sa vie. À cela s'ajoute la mort de sa mère, un événement qui résonne en elle comme un terrible traumatisme. La religion, les prières, les médicaments lui font plus de mal que de bien. Et bien c'est à cette période, où elle est si vulnérable, que Dalida fait la rencontre de Richard Chanfray. La première fois qu'elle le croise, c'est dans les coulisses de l'enregistrement d'une émission, donc. À vrai dire, il s'agit plus d'un échange de regards, sans véritable discussion. Par la suite, c'est Pascal Sevran, ami de Dalida, qui va amener Saint-Germain à une soirée organisée par la chanteuse chez elle. Et là, c'est la première véritable rencontre, les premiers échanges. Et c'est le coup de foudre, le vrai, passionnel, violent. Illusoire, parfois, souvent même. Enfin, pour l'instant, Saint-Germain et Dalida ne se lâchent plus. Cette chanteuse est une grande dame, élégante, sensible. Son regard dit le tourment, la fragilité surtout. Alors ses proches s'inquiètent de cette relation avec ce comte de je sais pas quoi, là. Orlando le confirme dans une interview filmée par Paris Match.
C'est l'homme le plus fou que tous, quand il est rentré dans la vie de Dalida, on a eu peur pour Dalida, on a eu peur pour sa carrière. Mais Dalida, elle s'est entêtée, il a dit, vous allez voir, je veux le sauver, je veux le changer. Et c'est l'homme qui a duré le plus dans sa vie, car quand même, presque 9 ans, ils sont restés ensemble. Et c'est là qu'il a fait dans sa carrière le plus grand de choses, parce qu'elle avait la casquette pour deux. Elle voulait montrer qu'il n'était pas un danger pour sa carrière, tout ça. Malheureusement, elle a été heureuse comme femme, il faut le dire. Malheureusement, elle était tellement fou et tellement imprévisible qu'au bout d'un moment, elle a dû... La raison l'a emportée, elle a dû se séparer.
Au début, Saint-Germain, metteur en scène de sa propre histoire, offre à Dalida le réconfort dont elle a besoin. Et une part de rêve, peut-être, ou plus lucidement, de fantaisie. Si la chanteuse ne croit ni aux récits fantastiques, ni aux fables de son compagnon, elle aime protéger Saint-Germain quand celui-ci redevient invulnérable, qu'il doute, qu'il veut abandonner. Ça s'appelle l'amour, qu'elle a si bien chanté. Richard rêve de devenir peintre. Dalida lui achète tout ce qu'elle peut pour qu'il se lance. Des toiles, de la peinture, et même son appartement de la rue d'Orchamps pour en faire son atelier. Au volant d'un cabriolet de sport sur les routes de Corse, dans les loges lors des tournées aux quatre coins de la France, au bord de la piscine de la résidence du Midi, Richard est toujours là. Il aime qu'elle ait besoin de lui. Et tout ça, malgré de fréquentes tensions dues en partie aux coups de colère, de jalousie de son amant et de sa consommation d'alcool. Ensemble, Dalida et Saint-Germain vivent une romance en accéléré. Et ils scellent leur union sur scène, en direct à la télé. Un truc parfait pour les chaumières, à coups de contes de fées et de contes de Saint-Germain. Ici, le 23 mars 75, lors de l'émission Ring Parade.
Dalida.
Dalida qui va nous dire bonsoir à 20h30 avec son célèbre duo de l'amour en compagnie de Saint-Germain.
Un chandelier sur un coin de table, un feu de bois des ombres et du vent.
Un homme, une femme, heureux d'être ensemble, en écoutant Mozart doucement.
Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour.
mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. Qu'on connaît, ce qui s'aime joue la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. Qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Dalida et le comte de Saint-Germain.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
L'ami de la chanteuse Dalida, Richard Chanfray, plus connu sous le nom de comte de Saint-Germain, a passé la nuit à la prison de Fresnes. Il est inculpé de coups et blessures volontaires pour avoir tiré, dans des circonstances assez rocambolesques, sur le petit ami de la domestique de Dalida.
Mardi 29 juin 1976, prison de Fresnes, banlieue sud de Paris. C'est ici, dans une cellule moite et insalubre d'à peine 10 mètres carrés, que le comte de Saint-Germain, en vérité Richard Chanfray, passe sa première nuit de détention provisoire. Il se trouve que l'aristocrate préféré de France Dimanche, Edici Paris, a été interpellé plus tôt dans la journée par les policiers. Le comte a cru un temps pouvoir échapper à la tourmente judiciaire, en se réfugiant dans la villa corse de sa belle, la chanteuse Dalida, ratée. Alors les ennuis l'ont rattrapé, et le voilà à l'ombre, sans cigarette, sans champagne et sans sa garde-robe de bourgeois gentilhomme. Tout ça à cause d'un fait divers qui s'est déroulé 2 semaines plus tôt à Paris, dans le quartier de la butte Montmartre. Ce soir-là, le comte de Saint-Germain et Dalida vont dîner en compagnie du frère de la chanteuse Orlando. Comme à son habitude, Saint-Germain boit et attire l'attention de tous ceux qui se trouvent à sa table, mais aussi des tables alentour. À la fin du repas, avec Dalida, il regagne l'hôtel particulier de la chanteuse, rue d'Orchamps, non loin de la basilique du Sacré-Cœur. La soirée est chaude, la rue est calme. Saint-Germain n'est pas ivre, mais il a bu, sans doute trop. Quelques minutes plus tard, les deux amants arrivent devant le domicile de Dalida. Ils aperçoivent alors de la lumière à la fenêtre de la chambre de la bonne. À cet instant, la chanteuse est prise d'effroi. Son employé de maison, elle le sait, est parti en vacances depuis plusieurs jours. Alors, qui est là? Un cambrioleur? Un rôdeur? Un fan déséquilibré? Dalida reçoit des dizaines de lettres au contenu menaçant, parfois obsessionnel, ce qui évidemment la stresse. C'est à partir de ce moment que la soirée tourne au drame. plutôt que d'appeler la police, Saint-Germain décide d'agir. Il se précipite pour récupérer sa carabine 22 longs rifles, une arme que lui a offert Dalida quelques années plus tôt. Puis il se précipite au troisième étage, sous les toits, son fusil pointé, Dalida réfugié derrière. Une fois en haut, en face de la porte de la chambre de la bonne, les deux amants aperçoivent une lueur jaunâtre qui jaillit. Il n'y a pas un bruit. Après quelques instants d'hésitation, Saint-Germain passe à l'action. À l'aide d'une clé, il déverrouille la serrure, puis il pousse violemment la porte et crie « Olé va !» La suite, c'est un journaliste de Paris Match qui la raconte.
Face à Saint-Germain et Dalida se tient un inconnu. Il est nu, allongé sur le lit, le corps luisant de sueur. Surpris, l'étranger se redresse et répond affolé « Je suis Joao, l'ami de Maria !» De petite taille et frêle, il contemple avec effarement le trou rond et noir de la carabine automatique braquée sur lui. Portugais, il s'exprime à peine en français, aussi ses explications sont-elles embrouillées et peu claires.
« Vous mentez !» réplique Dalida. « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» crie la chanteuse. Le jeune Portugais agite alors le bras et, quelque peu maladroit, il essaie de s'avancer. Saint-Germain, la main crispée sur la carabine, un doigt tremblant sur la détente, prend peur. Le comte fait un geste brusque, une détonation retentit. Le comte a le visage livide, il ne sait plus quoi faire. Comble de la situation, c'est la victime, Johan, toujours vivant, qui propose un scénario pour éviter le scandale. Appelez la police, je dirais qu'on a voulu voler mon portefeuille dans la rue, que j'ai été blessé, je me suis réfugié chez vous. Voilà. L'histoire semble tirée par les cheveux, mais faute d'une meilleure idée, Dalida et Saint-Germain acceptent. Mais trois jours après son admission à l'hôpital Bichat, Johan craque sous la pression des enquêteurs qui ne croient pas à la version du Portugais. Alors le jeune homme avoue, et il va plus loin, il porte plainte pour coups et blessures contre Saint-Germain. Les policiers débarquent chez Dalida, qui se trouve alors en vacances dans sa ville la Corse. Il passe les menottes au poignet du comte et le ramène manu militari à Paris. Saint-Germain a son compte. C'est à ce moment précis que son passé trouble refait surface. Dalida découvre alors que son compagnon est marié à une autre femme et qu'il a déjà été condamné en 1963 à 6 ans de prison par la cour d'assises pour escroquerie, extorsion et violence avec arme. Saint-Germain plaide l'erreur de jeunesse. Dalida le pardonne et paie sa caution. Pour avoir tiré sur Johan, il est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et 250 000 francs de dommages et intérêts. Autant dire qu'il s'en tire bien. Pour avoir confirmé et soutenu la version de Saint-Germain, Dalida, elle, est poursuivie pour faux témoignage, mais les charges sont finalement abandonnées. Et c'est elle qui paiera l'amende de son compagnon. Voilà, on n'en parle plus. Enfin, façon de parler.
Pour vous, Dalida, quelqu'un qui sert d'homme à votre vie?
Que je connais bien.
Je ne sais pas comment présenter Saint-Germain. Sinon, que tout le monde le connaît, parce qu'il a fait parler de lui. Il y a peut-être simplement, Saint-Germain, un mot qui vous qualifierait mieux que les autres maintenant. Est-ce que ce serait celui de frimeur?
Pourquoi pas.
Frimeur.
Au fond de mon lit, il m'est venu ce rêve fou. Si toutes les femmes de la ville venaient se mettre à mes genoux, je serais le premier des hommes, le dernier mâle survivant. Mon premier vœu sera, j'ordonne, que chaque femme ait un enfant.
La vie reprend, The Show Must Go On. Printemps 77, Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain, chante en direct à la télé. Sur le plateau, Dalida est là, bien sûr, elle est sa première fan. On la voit souriante et enjouée, son couple semble plus fort que jamais. Mais en coulisses, les caprices et les dépenses de plus en plus exubérantes de Saint-Germain commencent à crisper leur relation. Ce type se montre de plus en plus irritable, jaloux et agressif quand Dalida ne lui offre pas ce qu'il veut. Pour autant, malgré le contexte, c'est en cette même année 77 que Dalida et Chanfray, alias comte de Saint-Germain, rappelons-le toujours, réalisent leur plus belle collaboration artistique. La chanson Remember, qu'ils chantent en duo, devient le show de l'été et se lisse dans les hit-parades français et italien. Coqueluche des plateaux télé, avec son sourire charmeur, ses chemises à jabot et ses pantalons pas de def, Saint-Germain écume les émissions de variété dont il est désormais un invité récurrent. Et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il se livre au jeu des questions et de la provocation, pourvu qu'il se montre.
On parlait tout à l'heure des gens qui agressent les femmes, mais moi, cette dame avec une chaîne, là, tout en noir, je sais pas si je me défendrais si elle m'agresserait, tu vois.
Oui, t'as eu peur, hein. Oh là là. Je te plains beaucoup, Richard. Mais tu feras un livre, alors, pour dire comment les hommes doivent se défendre contre les femmes.
Nous par les femmes. Moi, je voudrais bien être agressé par les femmes.
Ah bon?
Ah oui.
Bah, d'accord, alors. Voilà, ces dames t'ont entendu. En tout cas, toi, tu as une façon de les aborder et non pas de les agresser. C'est avec des chansons de charme.
Oui.
Alors après le disco rock, eh bien, il faut un petit peu se reposer puis interpréter un slow.
Un slow, oui. C'est aussi un peu un disco. Parce que dans les discos, ça se danse aussi pour se reposer.
Derrière les succès, les images de télé, la rupture avec Dalida se dessine. Les brouilles et les disputes se multiplient. Saint-Germain est ivre de rage contre ses propres échecs et envieux de la réussite de Dalida. Quelques années plus tard, au printemps 81, c'est lors d'un dîner entre amis dans la villa de Corse de la chanteuse que tout bascule. Tout part d'une nouvelle colère de Saint-Germain au sujet de la tenue vestimentaire de Dalida. Une remarque blessante, un geste violent et déplacé, la chanteuse met fin à leur relation. Cette rupture marque la fin de la période dorée pour le comte de Saint-Germain. Fini la Rolls-Royce dans Paris, les dîners somptueux à la table des meilleurs restaurants de la capitale, les week-ends dans le midi ou en Corse. Ses apparitions sur les plateaux se font plus rares, ses disques ne se vendent plus. Saint-Germain redevient très vite celui qu'il était au départ, Richard Chanfray, un homme sans le sou et sans succès, qui retourne à ses escroqueries en tout genre, portrait robot du raté, du minable. Puis il rencontre Paula Loss, une figure bien connue de la vie mondaine parisienne qui vit seule dans un immense appartement de l'avenue Foch. Belle, elle est une figure de la jet set, dit être riche, très riche, se prétend baronne et originaire de Suisse. En réalité, la police la soupçonne surtout de se prostituer auprès d'une riche clientèle qu'elle fait ensuite chanter pour subvenir à son train de vie fastueux. Autre élément, cette Paula s'appelle en réalité Paulette Guillet-Loss. À quelques années d'écart, c'est fou ce que son personnage rappelle celui du comte de Saint-Germain. Deux individus toxiques qui deviennent très vite amants et partenaires d'escroquerie. Ça promet. Et ça ne manque pas. Au printemps 83, la police les recherche tous les deux dans le cadre d'une affaire d'extorsion avec violence auprès de l'agent immobilier le plus chic de Paris. Armé d'un pistolet mitrailleur, Chanfray aurait menacé la victime pour obtenir le paiement d'une reconnaissance de dette de 170 000 francs suite à une transaction immobilière confuse entre Paula et un acheteur suisse. Mais dans cette nouvelle affaire, la police n'aura jamais l'opportunité d'entendre Saint-Germain, comme l'explique la journaliste Françoise Parturier.
Je suis arrivée il y a deux jours à Saint-Tropez, parce que j'étais restée à Paris pour faire apostrophe, et je viens d'apprendre que sur les Hauts de Ramatuelle, à l'endroit même d'ailleurs, où a lieu une orgie qui se termine par une mort accidentelle ou voulue, on ne sait pas même dans le livre, que le comte de Saint-Germain, l'ami de Dalida, s'est suicidé là. Par exemple, moi personnellement, connaissant depuis si longtemps d'après ce qu'il y a, je ne suis pas sûre qu'il soit suicidé.
22 juillet 1983, col de Corrébas, non loin de Saint-Tropez. Richard Chanfray et sa partenaire, Paula Loss, sont retrouvés morts à bord de leur petite voiture de location. La police constate qu'un tuyau a été accroché au pot d'échappement et retourné pour aller dans l'habitacle. Les expertises concluent logiquement par une mort par asphyxie au monoxyde de carbone. On découvre que le couple avait également avalé des barbituriques. L'enquête conclut donc un suicide. À bord du véhicule, les enquêteurs retrouvent aussi une lettre écrite par Saint-Germain, où il explique que, ruiné, il n'a plus d'autre choix que de mettre fin à ses jours, en compagnie de Paula, qui elle aussi a perdu toute sa fortune. C'est à la radio que Dalida apprend la mort de son ancien compagnon. Au journaliste qu'il interroge, elle affirme ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis plus de 3 ans. Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain, s'était prétendu alchimiste et immortel, et il disparaît à l'âge de 43 ans, ce qui reste tout de même très jeune pour mourir quand on est immortel.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du comte de Saint-Germain, alchimiste et mythomane et amante d'Alida. Notre invitée, Catherine Rioua. Bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé, vous êtes l'autrice de romans et de biographies, dont une consacrée à Dalida, un ouvrage coécrit avec Orlando, donc le frère de la chanteuse, ouvrage intitulé « Dalida, mon frère, tu écriras mes mémoires ». Ce livre a été réédité aux éditions Plon en 2022. Alors cette aventure loufoque du comte de Saint-Germain est l'occasion pour nous d'aborder la vie sentimentale et la carrière de l'une des personnalités les plus marquantes de la chanson dans les années 70. Je vais bien sûr parler de Dalida, qui nous intéresse beaucoup plus que ce soi-disant conte, ce personnage. D'ailleurs, quel regard vous portez sur lui d'emblée ?
C'est quelque chose de très étrange, parce que évidemment, il racontait n'importe quoi.
Ah oui.
Et ça marchait, parce que c'était une période... Les années 70, on aime ce genre de personnage. Un peu voyou, un peu déjanté, mais avec du panache. Ça plaît, parce que les 30 Glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses que ça d'ailleurs, sont terminées. Tout semble possible. C'est l'époque de la libération, soi-disant sexuelle, mais pas seulement. Ce genre de personnage-là, c'est un excellent client pour les médias, parce qu'il a un charme fou, il est très beau, il a des cheveux châtain clair longs, un charme félin, quelque chose, et il plaît aux femmes plus âgées. Alors, Dalida n'a que 50 plus que lui, n'est-ce pas ? Mais il était déjà protégé par une dame riche et plus âgée, c'est pas un gigolo en même temps.
Mmh.
Il est très généreux, dès qu'il a un peu d'argent, il fait des cadeaux à Dalida. Bon, mais ce qui plaît, c'est que c'est un enfant perdu dans le corps d'un homme viril. Alors on dit plus ça aujourd'hui, mais on le disait à l'époque. Et donc ce mélange, ça suscite chez les femmes quelque chose de maternel, le désir de protéger. Et Dalida a toujours voulu sauver un homme. Ça vient de la disparition de son père lorsqu'elle avait 12 ans, dans des circonstances tragiques après des années dramatiques. Et elle se reproche de ne pas avoir compris son père à cette époque. Il était sorti d'un camp où les Anglais avaient mis tous les gens d'origine italienne. Et c'est pas du tout qu'il était fasciste, le pauvre homme. Mais c'était juste, il était d'origine italienne. Et donc faisait partie des puissances de l'Axe. Et donc quand il en ressort, il est complètement démoli nerveusement et il est violent avec sa famille. Il n'a plus de travail, il était premier violon à l'Opéra du Caire et là il est devenu violent et Dalida lui en veut. Donc elle a souhaité là, que son père s'en aille et le père a fait plus que s'en aller, il est mort. Et donc, depuis, elle a cette envie de sauver un homme. Alors, elle a dans sa vie une succession d'hommes qui tous, alors d'abord, sont des orphelins de père, et ensuite sont sur une mauvaise pente, sur une pente de destruction.
On y reviendra, mais quand même, vous ne pouvez pas que ces personnages, il n'y a pas que lui, comme Saint-Germain, sont un peu nocifs quand même, toxiques.
Oui.
Hein, pour leur entourage.
Ce sont des personnages. Alors, dans le cas de Tenko, oui, il y avait quelque chose effectivement de toxique, c'est-à-dire qu'il était autodestructeur. Et puis ensuite, alors, elle a eu, avant Saint-Germain, elle a eu une histoire avec Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins était une espèce de gourou, enfin de maître spirituel. Elle s'intéressait, depuis la mort de Tenko, où elle avait fait une grave dépression suicidaire, elle espérait trouver son salut dans la mystique. Et donc Desjardins, c'était parfait, sauf qu'à un moment donné, elle s'aperçoit qu'il parle beaucoup et qu'il ne fait pas grand-chose. C'est pour ça qu'il va y avoir le duo Parole et Parole avec Delon, dans lequel elle accuse un homme de ne faire que parler.
Ah, voilà. C'est ça que veut dire la chanson, c'est intéressant.
Il y a ça derrière.
D'accord.
C'est okay. Une chanson italienne que Orlando a entendue à la radio et qu'il a décidé d'adapter pour Dalida. Mais si vous voulez, Dalida n'écrit pas ses chansons, mais les chansons qu'elle va chanter ont toujours un rapport avec sa vie. Dans le cas de Parole et Parole, moi je pense que c'est ça, c'est se dire ça suffit. Et en fait, elle va tomber d'un tchatcheur dans un autre, puisque Saint-Germain, il a un charme fou, il est vraiment très beau, il a quelque chose de félin, et il sait parler. évidemment, c'est un magicien. Il dit qu'il est magicien. Mais d'une certaine façon, il l'est. Parce que grâce à lui, Dalida va vivre la plus belle période de sa carrière. Et même en tant que femme, il va la rendre heureuse. Alors, ils vont rester ensemble pendant 9 ans, dont 6 où ça se passe relativement bien. Elle n'a jamais été aussi belle. Elle n'a jamais été aussi épanouie, en particulier au début de leur relation, il va l'épanouir sexuellement. Quand même, elle va vraiment devenir une femme magnifique.
Et pour vivre sa vie de femme.
Oui.
Puisque vous dites qu'il parlait bien, on va l'écouter. On va écouter cette interview du comte de Saint-Germain, qui confie ses souvenirs, évidemment, dans les jardins du château de Versailles.
Sa vie quotidienne, il la cache. Il se dit antiquaire, mais il n'est jamais dans son magasin. On le prétend très occupé, mais il se libère facilement. Il refuse de donner son adresse.
Je suis un peu chez moi, comme chaque Français, je pense, mais un peu plus, puisque j'ai le temps.
Est-ce que vous avez des souvenirs au moment où vous revenez là aujourd'hui avec nous à Versailles? Des souvenirs qui reviennent en vous?
Oui, évidemment, je ne dirais pas chaque arbre me représente quelque chose, chaque bassin, chaque statuette, mais il est vrai que cette foule qui n'est plus là est quand même présente à mon esprit. Et je vous avoue que certains soirs, je retrouve certaines personnes dans ce parc.
Votre fortune aujourd'hui, c'est toujours celle du 18e que vous entretenez?
Si on veut, oui, c'est exact. C'est un peu ça. Mais c'est la fortune de mon ordre aussi. On ne me laisse pas dans la misère. Pas tout le temps.
C'est votre ordre qui vous entretient en quelque
mon
sorte.
Mon supérieur, et j'entretiens les autres.
Vous voulez voir, mon père?
Il y a environ 1 million, sur moi. Mais ce sont pour mes frais de déplacement. Vous voyez que mon ordre m'aide et ne me laisse pas sans rien.
On nous a pourtant dit que vous étiez un espion.
Mais c'est faux, on dit tellement de choses. On dit bien que je suis immortel aussi.
C'est lui qui le dit ou on le dit?
C'est lui qui prétend qu'il est immortel.
Bah oui, pourquoi il dit, alors on dit que je suis immortel hein.
Oui, mais Dalida n'est pas dupe de ça. Mmh. Elle sait qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais elle aime ça, si vous voulez. C'est de l'illusion. Elle-même dit « J'ai fait ma carrière à partir de ma souffrance ». Donc, transmuter le plomb en or, Jung, le psychanalyste, en a beaucoup parlé.
Bien
la
sûr.
Question de l'alchimie étant, en fait, symbolisant la transformation de l'être humain dans ce qu'il a de plus bas en quelque chose d'épanoui, de magnifique. Et il va réussir ça, Saint-Germain. C'est quand il est en prison pour cette horrible agression d'une femme âgée. Mais c'est en prison, il se met à lire. De temps en temps, la prison, ça sert à quelque chose. Il lit beaucoup et c'est à ce moment-là qu'il se fabrique ce personnage à partir du plomb et il se transforme d'une certaine manière parce qu'il a quelque chose de doré. C'est frappant quand on le voit. Il est comme doré, cet homme. Dalida aime la beauté chez les hommes et là, vraiment, elle est servie. Mmh. Et donc, ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que quand on les voit en photo, on s'aperçoit ils sont comme des jumeaux, ils se ressemblent et ils se baladent, par exemple, dans les rues de Rome en se tenant par la main, habillés pareil, parce que c'est la mode de l'unisexe. Et donc, ils ont le pantalon pas de def, le blouson, le col pelle à tarte.
Oui, enfin, le col pelle à tarte, oui.
Voilà, c'est toute la panoplie de l'époque. Et ils sont habillés pareil et ils se ressemblent. Et si vous voulez, médiatiquement, c'est assez magnifique. Elle est très sensible à ça. C'est comme si elle avait trouvé son double. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça dure quand même quelques années.
Qui se ressemble, ça semble.
France Inter. Affaires sensibles.
Catherine Ewa, pour les dernières minutes qui nous restent, on va parler que de Dalida.
Oui.
Voilà, il y a une ou deux générations de Français et de Françaises qui, peut-être, pendant les années 70, en ont eu marre de ces émissions de variété, dès lors qu'il n'y avait aucune ouverture, par exemple, sur la pop et le rock anglais. Donc, il y avait un rejet, peut-être, sur certaines personnes de Dalida et de tant d'autres qu'on voyait tous les samedis soirs, tout le temps, toujours les mêmes. Et puis, on redécouvre Dalida, oui. Ensuite. Et là, on découvre une œuvre, une femme remarquable, qui nous émeut, avec quelques chansons magnifiques. C'est aussi toutes ces qualités-là de cette artiste qui vous ont poussé à écrire un livre sur elle. Vous êtes aussi une admiratrice, vous aimez Dalida.
Mais moi aussi, je suis d'une génération où j'aimais le rock anglais. Mais Un jour, je déjeunais avec mon éditeur et sur le chemin, je vois une affichette dans un kiosque, suicide du faux comte de Saint-Germain avec la fausse comtesse belge. Et là, je dis à mon éditeur, écoute Dalida, c'est vraiment un personnage romanesque. Je l'ai toujours vu comme une grande, vous savez, les grandes héroïnes de l'opéra italien. Pour moi, c'était ça. Et donc, mon éditeur me dit, mais écoute, on signe tout de suite. Et puis là, je lui ai dit, non, je peux pas le faire parce que ça va se terminer tragiquement. Je sentais ça et je ne veux pas avoir participé à ça. Mmh. Et puis, longtemps après, par Dominique Besnéard, qui était mon agent, j'ai rencontré Orlando et nous nous sommes entendus très vite. Et à ce moment-là, j'écoutais Dalida tout le temps parce que je comprenais que c'est l'émotion, si vous voulez. Et d'ailleurs, quand elle rencontre Saint-Germain, c'est Pascal Sevran, son nouveau parolier, qui l'amène à une soirée chez elle à propos de la sortie de son disque Pour ne pas vivre seule. Donc, vous voyez toujours Dalida, elle est dans l'actualité de quelque chose, de sa propre vie, et ça a un écho chez les gens qui l'écoutent.
Bien sûr. Comment s'est passée cette rencontre avec Alain Delon pour Paroles et Paroles? C'est assez fascinant parce que c'est quand même deux très grands personnages. Hein.
Oui.
Et c'est très émouvant. Comment ça s'est construit ça?
Ça s'est passé qu'en fait, ils se sont connus très jeunes lorsqu'ils étaient à peu près inconnus l'un et l'autre. Et ils habitaient chacun avait une chambre de bonne à côté. Et donc, il y a eu une amitié entre eux à ce moment-là. Et quand il a été question de donner à Dalida Paroles, il fallait quelqu'un qui lui donne la réplique, et Orlando a pensé à Delon, et Delon a accepté immédiatement.
Excellente idée, effectivement.
Excellente idée, et Delon a accepté immédiatement, et effectivement, c'est un très beau duo.
Une relation entre eux? Non?
Je ne sais pas. On Bien. Dit ça.
Vous savez ce qu'on va dire? On va dire que ça les regarde.
Ça les regarde,
on pose quand même la question, parce qu'on aimerait bien savoir.
Oui.
Une relation entre Dalida et François Mitterrand?
Oui. C'est une relation qui a été on and off pendant un certain nombre d'années. Elle l'admirait. C'était une figure de père et elle recherchait toujours ça. Et lui, c'était un homme à femme, on le sait bien. Et donc, il était impressionné par cette femme. Et puis, bon, quand il est devenu président de la République, je serais tentée de dire qu'il avait autre chose à faire. Il était très occupé. Et puis, elle avait rencontré Saint-Germain.
Ouais, donc, voilà. Ce sera le mot de la fin. Catherine Riwa. Merci infiniment. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du comte de Saint-Germain et surtout de Dalida. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gaspard Guy Bourget.